Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Eh bien, pour changer un petit peu d'ambiance et d'habitude, nous allons parler pandémie. Et oui, ça nous est pas arrivé depuis longtemps, voire pas très souvent, on n'y est pas habitué. Non, je plaisante bien évidemment. Le livre que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est le tome 2 d'un livre qui a connu son succès. Je dirais que c'est un livre à grand spectacle qui nous parle de pandémie, d'une pandémie, vous allez sans doute vous en souvenir, bien particulière, avec un écrivain que l'on a découvert très au fait des choses, c'est pointu, c'est bien réglé, il nous maintient en haleine et un suspense terrifiant. Son écriture est aussi pleine, agréable, et le personnage et l'homme le sont tout autant. Pour nous parler donc de ce deuxième tome, Erectus, l'armée de Darwin aux éditions Ixo, j'ai de nouveau le plaisir d'accueillir Xavier Muller. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nouveau d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour ce deuxième opus de Erectus aux éditions Ixo, l'armée de Darwin. Alors, on va rappeler un petit peu les choses. Il y a une pandémie qui s'est abattue sur la Terre. Il y a Anna Meunier, Anna Meunier qui est paléontologue, qui va s'occuper de ça. Alors, il y a ce virus Kruger qui est apparu en Afrique du Sud, qui transforme la faune, la flore et les humains. On régresse finalement, on revient à l'état de Homo erectus, puisque c'est le terme qui a été choisi. Et puis il y a une accalmie, ça s'est passé il y a 7 ans, et là, votre livre va débuter à ce moment-là. On rappelle que Stephen Gordon est également le spécialiste à l'OMS, il y avait également son adjoint Lucas. Faut rappeler aussi que le compagnon d'Anna Meunier a lui été atteint par le virus. Donc on va pas en dire trop, c'est un petit peu pour résumer. Là on attaque le livre. Ça va pas s'arranger. Comment avez-vous vécu vous ce deuxième ouvrage? Comment l'avez-vous débuté? Quelle a été l'histoire? Il fallait continuer parce qu'évidemment Erectus, le premier tome n'était pas terminé. 7 ans de répit et puis voilà, ça continue, ça recommence.
Alors oui, vous avez bien planté le décor. J'avais le tome 1 est une histoire indépendante,
oui.
Mais il se terminait par un coup de théâtre.
Oui.
Par une petite fenêtre que j'ouvrais, qui était ce cri d'un nourrisson qui déchirait l'air au sein des réserves, au sein de la réserve africaine où on a parqué les Erectus.
Mm-hmm.
Ce sont donc ces versions régressives des hommes.
Il faut rappeler que ce sont des centres de rétention. Hein, où on a, voilà.
Voilà, ouais, mm-hmm. Exactement. C'est des réserves où, en fait, on ne savait pas trop quoi faire. Le tome 1 se termine sur cette espèce d'aveu d'échec,
oui.
D'aveu de désarroi face à cette population, c'est-à-dire que les Erectus sont suffisamment nombreux pour constituer une espèce à part entière.
Mmh.
Et ça peut être votre frère, votre père,
un mari,
votre grand-mère.
Alors certains ont proposé un génocide, il faut le préciser aussi. Hein, dans le...
Voilà, mmh. Alors évidemment, face à une situation extraordinaire comme ça,
oui.
Tous les comportements de la nature humaine s'exprime, et y compris les plus terribles et les
oui.
plus noirs. Et donc, évidemment, certains proposent pour régler le problème, parce que le problème vient du fait que les Erectus continuent à être contagieux et continuent donc à représenter une menace. Ils forment une espèce de foyer
oui.
du virus.
Mm-hmm.
Comme les populations de pangolins qu'on a suspecté d'être le foyer de la pandémie.
Tout à fait.
Donc même si on a pu juguler la pandémie, les réserves et puis les Homo erectus donc représentent toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la population mondiale.
Mm-hmm.
Donc oui, voilà, certains ont proposé, bon allez, on tranche le gardien, on se pose pas de d'état d'âme, hop là, on les éradique tous et puis s'en est
fini
avec
cette
menace. Mm. On en parle plus. Mais évidemment, ils étaient minoritaires et puis même si ces Homo erectus sont, même si le dialogue avec eux est difficile,
oui.
personne n'oublie que effectivement, ça peut être un membre très proche de votre famille qui est transformé.
Le compagnon d'Anna est touché, et pour elle, ça devient un étranger.
Donc effectivement, ça devient un étranger, mais Anna, Anna, il existe toujours dans la tête d'Anna. Et donc toute la population humaine doit faire avec ces espèces de fantômes qu'on garde dans la tête. Oui. Donc on peut pas les traiter comme si c'était des êtres complètement éloignés de nous.
Bien sûr. Alors tout a débuté, il faut le repréciser aussi, en Afrique du Sud, dans un laboratoire. On a envoyé quelques échantillons. Je crois que c'était le docteur Crabbe. Je crois, dans le premier tome, elle a reçu des échantillons, un éléphanto qui avait aussi 4 défenses. Enfin, il y a tout un engrenage. Il y a aussi l'ingénieur, je crois, en biologie marine, si ma mémoire est bonne aussi. Donc, il y a tout un tas de ramifications comme ça qui nous amènent aux Homo erectus. Il y a tout un tas de processus. Un procédé, on a l'impression qu'il est inéluctable, finalement, ce processus.
C'est un petit peu ce qui est délicieux, entre guillemets.
Ça me plaît bien.
Je vais passer un peu pour un fou, mais quand on romance une pandémie, il y a effectivement tout un engrenage, comme vous dites bien, tout un mécanisme qui se met en place, et que les épidémiologistes essayent de décrypter. C'est ce qu'on a vu là. Pour l'excursion qu'ont réalisé des épidémistes à Wuhan, et que voilà, on est un an après le début, et on est encore à essayer de déterminer comment le feu a démarré. Donc ça, du point de vue du roman, là on connaît a posteriori, mais c'est intéressant. C'est un petit peu comme un joueur d'échecs qui avance ses pions sur un échiquier, et puis le petit pion qui est là à droite, qui au début du jeu paraît pas avoir d'importance, en fait, mine de rien, il avance, et puis il va mettre en danger la reine in fine, quoi, quelques tours après. Donc du point de vue de la construction du roman, c'est ça qui est intéressant à élaborer, à édifier. C'est tout ce petit jeu, voilà, des pièces qui s'avancent, et puis un peu sournoisement, quoi. Et puis voir attendre le moment où ça va péter, quoi.
On l'appelle le virus Kruger, d'ailleurs.
Voilà, donc Kruger, parce que, comme vous l'avez dit, il a été découvert au parc Kruger, qui est un célèbre réserve naturelle en Afrique du Sud. Et la tradition veut qu'on baptise les virus du nom où ils ont été. Quand ils n'ont pas été découverts en laboratoire, comme le coronavirus, etc. Mais Ebola, c'est une rivière, par exemple. C'est une rivière en Afrique tropicale. Donc effectivement, tout avait commencé dans l'Afrique du Sud, et puis petit à petit, on voyait le virus faire tache d'huile à la surface de la Terre. Et ce tome 2 démarre à nouveau dans la réserve des Erectus, ce coup-ci. Donc dans cette réserve où on les parque. Et là, le sang vient de couler. Des Erectus ont été découverts sauvagement assassinés et cannibalisés. Alors la version officielle est que on assiste à des querelles entre clans pour des raisons territoriales ou pour des raisons d'accès à la nourriture. Mais pour Anna, qui est l'héroïne du premier, qui continue, toujours là. Qui perpétue la flamme.
C'est une paléontologue très atypique, très particulière. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. D'ailleurs, dans le premier tome, on la découvre. Elle vient de découvrir un spécimen préhistorique d'un oiseau préhistorique qui avait, je crois, des dents ou des griffes sur les ailes. Enfin, Le personnage est très attachant, mais c'est une combattante. Vous en avez fait une femme forte, avec aussi bien sûr ses peines. On le disait, son compagnon est devenu Homo erectus. Mais j'aime beaucoup ce personnage parce qu'elle va au bout des choses, et puis en même temps elle a sa propre personnalité. Elle ne s'en laisse pas compter, dirais-je.
Oui, Anna, c'est une personne un peu iconoclaste dans la communauté des paléontologues, à la fois qu'elle menait un combat un petit peu solitaire. Elle essayait de prouver. Elle avait eu l'intuition de ce phénomène-là qui a frappé toute la Terre. Mmh. Mais elle, elle en avait trouvé des traces, du moins pensait-elle, dans les archives fossiles
oui.
de, des espèces. Donc effectivement, elle avait mis le doigt en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle avait exhumé un fossile de dinosaure qui était aberrant. C'est-à-dire que c'était un fossile de d'oiseau d'il y a 60 millions d'années,
oui.
mais d'oiseau qui ressemblait, qui ressemblait pour trait à ces fameux archéoptérix qu'on a tous vus gamins à l'école, avec ces espèces d'oiseaux préhistoriques avec des dents. Et donc elle avait cette intuition à travers ses découvertes que la Terre avait traversé des phases de régression dans son passé, mmh. au cours de la préhistoire. Et le roman débutait, on faisait sa rencontre alors qu'elle exhumait ce fossile.
Oui.
Et évidemment, ça la mettait au banc de la communauté des paléontologues, la communauté scientifique, parce que personne n'y croyait, tout
oui.
simplement.
Mmh.
Donc elle était un petit peu rebelle. Hein. Elle s'agrippait à son hypothèse. Et ça faisait d'elle un personnage aventureux, comme souvent les paléontologues, parce que c'est l'espèce d'Indiana Jones qui vadrouille aux quatre coins de la planète.
Oui.
Et puis quelqu'un, disons qu'elle avait le caractère pour ne pas s'écraser face à la reste de la communauté qui lui disait « Non, mais c'est stupide que vous racontez, écrasez-vous », et puis revenez un petit peu sur les rails.
Mmh.
Donc voilà. Et dans le tome 2, elle a été portée au nu.
Oui, ah oui.
Dans le tome 1, parce que finalement, elle avait raison.
Oui.
Elle avait raison. Et mieux que ça, elle avait pris un petit peu les erectus. Elle portait une forme de responsabilité vis-à-vis de vis-à-vis
elle, d'eux. Elle est devenue directrice scientifique, d'ailleurs.
Elle est directrice scientifique, et puis un petit peu, elle a pris la défense des Homo erectus,
mmh.
parce qu'à cause de son histoire personnelle, voilà, son ancien compagnon, qui est
avec Yann. Yann.
Et donc, mmh. si certaines solutions radicales n'avaient pas été adoptées vis-à-vis de cette nouvelle espèce préhistorique
mm-hmm.
apparue sur Terre, cette nouvelle espèce humaine apparue sur Terre, c'est un petit peu grâce à elle. Donc beaucoup de gens lui sont redevables, et y compris parmi les officiels.
Mm-hmm.
Et donc dans ce tome 2, on l'a placé à la tête d'un centre de recherche qui
oui.
s'appelle le Centre de Préhistoire Vivante.
Oui.
Un centre de recherche qui part du principe si on a une espèce préhistorique sous la main, pourquoi ne pas l'étudier? Pourquoi ne pas faire de la préhistoire moderne, si je puis dire. Donc c'est un centre qui est placé dans la réserve, au sein de la réserve des Erectus en Afrique, et elle dirige ce centre. Et donc elle est vraiment en première ligne, enfin en bonne place pour observer ce qui se passe dans la réserve, et donc elle tombe sur ces corps sauvagement
oui.
assassinés d'Erectus, qui laissent penser à des querelles inter-Erectus, mais elle va vite se rendre compte que, en fait, ces assassinats sont des simulacres
oui.
et que ce sont des mises en scène réalisées par des gens qui viennent de l'extérieur des réserves, par un groupe de gens assez mystérieux et qui cherchent à kidnapper des Erectus
oui.
et pour s'approprier leurs compétences, leurs facultés cognitives qu'ils ont développées au sein des réserves,
mmh.
facultés qui sont extraordinaires.
Mmh. En fait, on peut dire que ce sont des sortes de savants un peu fous, dans la pratique, dirais-je, de leur de leurs œuvres, mais leurs projets ne sont quand même pas très très bons. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est un peu tendancieux, hein. On peut pas dire que ce soit de bonne aloi.
Oui, alors je sais pas jusqu'où on peut aller.
Oui, on va pas trop dire, on va phrases, voilà. C'est difficile, on tourne autour du pot, c'est compliqué.
Mais, Mais je pense qu'on peut dire que effectivement ce groupe qui cherche à s'approprier les compétences
ouais.
des Erectus,
des Erectus, oui.
Ils sont menés par quelqu'un qui s'appelle Owen Furst.
Ouais.
Ça, on peut le dire parce que ça arrive
oui,
rapidement
dans on
le
peut
roman.
Le dire.
Et ce personnage est un biologiste qui a un biologiste ambivalent. C'est un biologiste comme beaucoup de scientifiques qu'il y a aujourd'hui sur Terre qui a une dent contre l'humanité quand même, parce qu'il a été témoin des ravages qu'a commis l'espèce humaine. Alors lui, c'est un biologiste qui a fait ses armes dans l'Amazonie, qui a étudié la thérapie par les plantes des tribus indigènes, la phytothérapie. Et puis, comme beaucoup de gens de terrain, comme beaucoup de scientifiques de terrain, et ben, il a été témoin de la litanie des maux qui frappe la faune, la flore,
oui.
et dont nous portons l'entière responsabilité. Donc, la chute des populations des insectes, des oiseaux, le mercure qui pollue le sol, etc. L'Amazonie, même si c'est un endroit qui paraît encore très préservé, en fait, est vraiment le miroir de nos erreurs, voilà, de nos errements au cours du XXe siècle. Donc voilà, donc lui, il a été témoin de ça. Donc, il a envie de changer les choses, comme toute personne qui a des leviers.
Oui.
Devant lui. Et ses leviers, c'est ses spécialités, c'est ses connaissances, c'est-à-dire la biologie, la génétique, parce que c'est un biologiste généticien.
Un généticien, oui.
Et donc, quand va survenir cette pandémie de virus Kruger, lui, évidemment, ça va faire tilt chez lui, et il va se dire, tiens, peut-être que je détiens quelque chose là pour corriger, pour réparer la Terre. Et il va se poser une simple question. Et si j'utilisais le virus Kruger pour rebattre les cartes de l'évolution humaine?
Oui.
Et si je nous faisais revenir en arrière pour repartir dans une autre direction? Voilà.
D'où le sous-titre du livre, L'armée de Darwin.
Voilà, donc lui, voilà. Donc là, je ne peux pas trop en dire.
Non, non.
Mais,
on va laisser le soin.
Le biologiste qui va essayer de prendre la tête d'un groupe armé d'une drôle de manière. Enfin, il va essayer d'armer un groupe de personnes d'une drôle de manière.
Oui.
Voilà, pour réparer. Pour
tenter
réparer
tenter de réparer l'humanité et la Terre.
Ouais.
Oui. Oui. Eh bien, nous allons tenter de nous réparer quelques instants avec une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Xavier Muller pour son tome 2 d'Erectus, l'armée de Darwin aux éditions IXO. Alors, je suppose que ce tome 2, vous l'avez écrit durant notre pandémie à nous, de coronavirus qui semble, j'espère que les auditrices, auditeurs ne voudront pas, bien plus infime pour le moment par rapport à votre virus Kruger.
Ouais. Alors, en fait, non, j'ai commencé à l'écrire avant.
Ouais.
Et ça a été pour moi une série de coïncidences assez troublantes parce que finalement, en écrivant le tome 2, qui est donc une espèce de deuxième vague,
oui,
du virus
du virus Kruger, oui.
Que le virus Kruger revient, enfin,
au bout de 7 ans, au bout de 7 ans,
modifié,
oui.
7 ans après.
7 ans après,
donc,
oui.
Donc la population humaine dans mon roman se retrouve dans la situation qu'on a craint, nous, durant de longs mois. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle épidémie dans 2 ans, 3 ans? Donc finalement, j'ai trouvé sur mon chemin un tas de questions qu'on se pose, nous,
oui,
depuis plusieurs mois face au coronavirus. Et donc ça a été étrange de voir, je me posais exactement la même question. Donc ça, j'imagine que c'est des espèces d'invariants, des épidémies, donc... ces questions, c'était tout simplement d'où est-ce que vient vraiment le virus,
oui,
comment est-ce qu'on peut éviter une nouvelle vague, comment est-ce qu'on peut éviter une reprise de la pandémie des années après,
mm-hmm,
et est-ce que les hommes politiques et les médecins, est-ce qu'on peut leur faire confiance pour monter une riposte, une parade,
mm-hmm,
à tout ça, mm-hmm. Donc tout ça, c'est des questions que j'ai trouvées sur mon chemin,
oui.
Alors,
ben, elles apparaissent, hein, dans votre livre d'une certaine façon, au travers d'Anna, au travers de ce groupe et, on le disait, de ce chercheur qui tente de réparer la Terre, qui souhaite réparer la Terre et l'humanité, de repartir à 1.0, on va dire. On retrouve un petit peu ce questionnement, une forme d'avancée. Il y a les questions, à nous aussi d'en trouver les réponses. Et puis, au fur et à mesure de la vie et du temps, on verra bien. Mais on retrouve cette démarche chez vous de réflexion et de recherche au travers du tome 2.
Oui, ouais. Et bon, évidemment, j'ai fait mes devoirs, hein, avant de m'engager sur ce roman, surtout le premier tome. J'avais lu,
oui,
beaucoup de documents de l'OMS et puis d'autres services de lutte contre les épidémies.
Oui.
Donc, tout ça a nourri. Tout ça a nourri mon imaginaire. Donc, c'est pas étonnant, ça se retrouve un petit peu, mais finalement, moi, en tant que romancier,
oui,
il ne faut pas que je me limite à des questions. Il faut que... C'est un petit peu mon privilège, c'est de...
Pouvoir apporter des réponses aussi.
Des réponses.
Bien sûr.
En tout cas... des réponses qui sont vraisemblables, à défaut d'être crédibles. Et donc, par exemple, dans le roman, pour essayer de répondre à la question comment éviter une nouvelle pandémie, j'imagine que l'OMS a développé en secret un système de vigie sanitaire, de surveillance sanitaire mondiale. À chaque fois que vous passez le portillon d'un aéroport, le portillon de sécurité d'un aéroport ou du métro, votre sueur est scannée à la recherche de virus ou de bactéries. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai imaginé dans le roman. Bon, je suis persuadé que ça... Que
on y viendra.
Un jour ou l'autre dans,
on y viendra.
Dans la réalité, que ça,
oui,
ça arrivera.
Oui.
C'est certainement à la fois rassurant et inquiétant. C'est évidemment big process.
Oui.
Voilà, ça c'est un petit peu mon privilège d'auteur, d'essayer de d'échafauder des réponses. Tandis que nous, voilà, dans l'incertitude du monde réel, on voit que depuis un an, on est en train en permanence de se poser des questions.
C'est vrai.
C'est ça qui est délirant.
Et on n'a pas beaucoup de réponses.
Voilà, et on n'a pas beaucoup de réponses. Et on a beau écouter les spécialistes. Moi, je lis le journal tous les jours,
oui,
enfin, comme vous, comme tout le monde.
Bien
on
sûr.
S'intéresse aux informations. Et ça fait un an qu'on godille.
On ne sait pas.
Il y a un an, par exemple, on remettait en question le caractère, est-ce que les gamins étaient facilement contagieux ou pas, quoi. Donc, est-ce qu'il fallait fermer les écoles ou pas? Est-ce qu'on pouvait laisser les gamins à l'école? Pendant les premiers mois, on s'est dit, non, ils sont peu contagieux. Bon, finalement, on s'est rendu compte qu'il l'était au même titre que les gens plus âgés. Il y a plein de questions comme ça. Les spécialistes nous disent on a des formes de certitude à un moment donné. Et finalement, on se ravise quelques mois plus tard. C'est terrible, hein, mais on se rend compte que la réalité est nettement plus fluctuante, mouvante,
oui,
que les romans. C'est terrible. Et finalement, la réalité, ça la rend d'autant plus angoissante, parce qu'on n'a rien de solide sous les pieds. On a l'impression que le sol se dérobe en permanence.
C'est vrai.
En dessous de nous, quoi.
C'est pour ça que, avec votre roman, alors c'est vrai, il y a les questions et votre, comment dirais-je, pas votre rôle de romancier, mais votre plaisir, ce gage de romancier fait que vous pouvez y apporter des réponses. Mais c'est vrai qu'en lisant votre livre, bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le pan par rapport à la réalité que nous vivons depuis un an. Alors, quelque part, on se dit, bon, bah alors nous, finalement, le coronavirus, c'est un petit truc, si je puis dire. Mais, comme on le disait tout à l'heure en antenne, finalement, on n'est pas à l'abri de choses que l'on ne sait pas, que l'on ignore. Et ce genre de virus Kruger, moi j'ai envie de dire, mais pourquoi pas? Tout est possible. Enfin, je veux dire, dans la nature telle que l'homme gère la terre, gère les choses, on s'aperçoit que tout est possible et pourquoi pas. Donc, c'est vrai que c'est un roman, c'est vrai que c'est une fiction, mais qui nous rapproche quand même de notre réalité avec des points de suspension aussi.
Ouais, bah, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire. C'est un peu mon boulot de romancier, si je puis dire. Mmh. C'est-à-dire de rendre l'invraisemblable possible.
Oui.
Moi, mon premier métier, c'est journaliste scientifique, donc j'essaie de puiser, de puiser dans mes connaissances, ou je sais pas, ou les connaissances que je peux encore acquérir. Pour rendre mon histoire, pour la construire sur des fondations solides.
Mmh.
Et s'il y a une leçon que j'ai retenue de toutes mes années de journaliste scientifique, c'est que tout est possible dans la nature,
oui,
vraiment.
Oui.
C'est-à-dire, si vous imaginez le truc le plus tordu, l'espèce animale la plus tordue, au comportement le plus tordu, et vous, si vous imaginez quelque chose, vous serez toujours dépassé par
la
réalité.
Bien sûr.
Et dans les virus et les bactéries,
des parasites.
Quoi?
Ouais, ou j'ai interviewé parasites. Il y a quelques jours un parasitologue qui était en Nouvelle-Zélande. Ben oui, ça fait partie de l'évolution de notre vie, mais c'est à la fois intéressant et effrayant aussi.
Ouais. Les parasites, il y a des choses abominables, atroces. Et complètement fantastique, littéralement. D'ailleurs, je pense même en faire un roman.
Pourquoi pas?
Et ça me titille un petit peu. Mais oui, donc il y a des choses incroyables dans la nature.
Et oui.
Donc, bon, pour les virus et les bactéries, c'est plutôt l'horreur et plutôt la peur qui nous attend. Par exemple, dans le pergélisol, là, on en parle beaucoup. Le pergélisol en Sibérie qui fond à cause du réchauffement climatique.
Oui.
Et là, on sait qu'il y a des bacilles de la peste.
Oui, complètement.
Qui sont dans le sol. Donc, on est à un doigt d'une résurgence de la peste par cet intermédiaire-là. Et donc, qui sait ce qu'il y a d'autre comme virus qu'il faut s'éliminer là-bas, je puis dire. Donc, mais en même temps, c'est toute la beauté de la nature, cette invention. Donc, moi, quand j'écris le virus Kruger, enfin Erectus, c'est aussi un appel vers les beautés de la nature.
Oui, et puis peut-être aussi plus de sagesse aussi.
Oui, alors bon, plus de sagesse
ou de conscience collective, en tout cas d'une certaine forme de conscience collective.
Modeste, un roman, bien ça sûr. De leçons, hein.
Bien sûr. Mais ça peut interroger, ça permet aussi de s'interroger, aussi, de toute façon.
Je pense que le meilleur moyen d'éveiller les consciences aux dégâts qu'on a commis, c'est de montrer la beauté de la nature
bien
et
sûr.
de tomber amoureux de la nature. Et il s'avère que j'ai écrit un livre sur les oiseaux migrateurs. Je l'ai écrit avec Christian Moulet, qui est l'homme qui vole avec les oies sauvages.
Oui. Fantastique.
Avant d'écrire ce bouquin, mes connaissances sur le monde des oiseaux étaient vraiment très limitées. Et j'ai découvert un monde fascinant. c'est vraiment un peuple, quand on parle du peuple migrateur, il y avait un joli, c'était le
titre, très beau documentaire.
Voilà, il y a vraiment un autre monde qui vit à quelques centaines de mètres au-dessus de nos épaules et qu'on ignore totalement, qu'on voit simplement perché sur les fils électriques et puis sur les branches qui entourent nos maisons de campagne. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg.
Oui. La nature est belle.
Quand on découvre ces mondes-là, on a envie de les protéger.
Ensuite. Bien sûr. En tout cas, ce livre, ce tome 2 est fort intéressant, passionnant. Vous le prendrez, vous n'aurez plus envie de le lâcher. C'est vrai qu'il vous fait dresser les cheveux un petit peu sur la tête, surtout que parallèlement à ça, on vit des choses pas très sympas. Erectus, l'armée de Darwin aux éditions Ixo, c'était avec Xavier Muller. Je vous remercie infiniment. Je suis sûre qu'il y aura un tome 3. Enfin, sûre. Je le pense. Voilà.
À la fois une nouvelle porte qui s'ouvre à la fin du tome 2.
Oui, tout à fait, c'est pour ça que je le dis, avis aux amateurs. En tout cas, c'était de nouveau un réel plaisir de vous recevoir, Xavier Muller, pour ce tome 2 d'Erectus. Et je vous dis donc à une prochaine fois. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Et puis, quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes. Merci, à très bientôt.